Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série que je vous invite à suivre toute la semaine. C'est une retraite spirituelle, une retraite avec Bossuet, chercher à vivre la parole de Dieu. Je reçois son auteur, Agnès Lachomme. Bonjour Agnès.
Bonjour Nathalie Cardon.
Alors, quelques informations vous concernant. Vous êtes ancienne élève de l'école normale supérieure et agrégée de lettres modernes. Mm-hmm. Vous enseignez les lettres philosophie dans un établissement public de Toulouse, la Ville Rose. Vous avez publié une thèse de doctorat intitulée « Le langage du désir chez Bossuet » aux éditions Honoré Champion, c'était en 2017, ainsi que plusieurs articles dans la revue Bossuet. Et puis c'est ce dernier livre, voilà, aux éditions du Carmel. Et c'est une retraite spirituelle. Et c'est un... J'ai été lectrice de ce livre du début à la fin. C'est un travail important que vous avez fourni quand on connaît un peu les œuvres et les volumes de Bossuet. Racontez-nous un petit peu la genèse de cette retraite spirituelle qui est présentée aujourd'hui aux éditions du Carmel.
Oui, alors c'est vrai que le but c'était de faire un petit livre.
Et vous avez réussi.
Un petit livre avec Bossuet.
C'est un défi.
Oui, je l'ai vécu un petit peu comme un défi parce que je voulais transmettre des choses accessibles, nourrissante, sélectionnée parmi les grands volumes de Bossuet.
Combien de volumes, rappelez-nous?
Je ne sais plus, il y a plusieurs dizaines de volumes, peut-être 20 000 pages, oui, voilà. Donc, l'idée, c'était que parfois, cet auteur impressionne, parfois, il paraît imposant, et donc, on ne le lit plus, alors qu'on pourrait peut-être goûter, au moins par miette, quelque chose de cette nourriture. Voilà, donc j'ai voulu faire une sorte d'anthologie, de petite sélection de textes, pour aussi les organiser, les orchestrer en un parcours. Enfin, c'était la demande des Carmes de Toulouse de l'inscrire dans cette collection. Ils ont une petite collection, voilà, de retraite spirituelle, toujours avec une figure chrétienne. Et il s'agit de sélectionner des textes, de faire un parcours de retraite, d'inviter à la prière, d'inviter à la méditation, de laisser le lecteur absorber, se nourrir, assimiler et peut-être prier à partir d'eux.
Alors vous avez réussi, hein. J'invite les auditeurs aussi à se plonger dans cette lecture et pourquoi pas, l'été arrive, se procurer cet ouvrage et entrer pendant quelques heures, quelques jours aussi, méditer dans, au fond, cette prière pour inviter à un cœur à cœur avec Dieu. Comment Bossuet s'est imposé à vous, puisque j'ai aussi nommé cette thèse, ce doctorat et ce livre qui était paru en 2017, Le langage du désir chez Bossuet.
Oui, alors je ne suis pas une lectrice de Bossuet depuis l'enfance. Hein.
on pourrait le penser.
Mais c'est vrai que j'ai découvert cela dans mes études de littérature quand j'étais à Paris. Je souhaitais travailler sur le XVIIe siècle. Bon, il y avait beaucoup de beaux auteurs au XVIIe siècle. Il y avait aussi des personnes avec qui j'avais envie de travailler, qui travaillaient sur Bossuet. Et puis, en tâtonnant un petit peu, c'est quand même la beauté de ces textes hein, qui m'a retenue, parce qu'il me semblait que dans les travaux qui avaient déjà été écrits sur ce grand prélat, qui n'était pas un écrivain, enfin qui ne se concevait pas comme un écrivain, même s'il était académicien, il y avait un élan, un souffle, une beauté qui pour moi pouvait se traduire avec le mot désir, enfin le langage d'un désir qui pouvait être le désir d'abord d'un Dieu qui veut nous rejoindre et qui désire que son fidèle le désire en retour, et le désir d'un prédicateur de s'adresser par une parole vibrante à ses auditoires, à ses lecteurs, pour essayer de les mettre dans cette dynamique. Voilà, et c'était un petit peu l'enjeu de ma thèse.
Et l'enjeu aussi de travailler Bossuet, de le proposer pour notre époque actuelle, que pourrait-il donner Bossuet à notre époque, dans ces temps de troubles, dans ces temps de grands questionnements, des temps peut-être dans ces temps modernes éprouvés par les guerres, par les épidémies, par la politique.
Il pourrait sembler archaïque, parce que cela fait bientôt 400 ans qu'il est né. Il est né en 1627,
oui,
donc on peut se demander
aussi
au premier abord.
Aussi.
Voilà. Mais je crois qu'on a besoin d'admirer hein, en ce moment, besoin de sens, besoin de peut-être On redécouvre notre finitude et c'était le XVIIe siècle, un siècle très centré sur les vanités, la conscience de la mort, la conscience l'évanescence de la gloire. Et malgré cette conscience de la finitude, il y a une espérance, en fait. Il y a une grande espérance.
C'est le grand paradoxe. Hein.
Oui, c'est un paradoxe. Oui, voilà,
Bossuet, grand orateur, brillant.
Oui, alors grand orateur brillant, pas forcément identifié comme tel à l'époque, bon, connu pour ses oraisons funèbres, connu pour ses sermons. Alors c'était à l'époque des sortes de grandes dissertations, voilà. Et là, c'est vrai qu'avec les textes sur lesquels je me suis concentrée dans l'ouvrage, on a des textes beaucoup plus courts. Prévu pour un quart d'heure de méditation par jour. Alors en fait, il n'arrive pas à s'y tenir, hein. Il déborde sans cesse parce qu'il a trop de choses à dire. Mais disons que c'est déjà plus concis et plus concentré que effectivement les grands sermons, les grandes oraisons funèbres devant la cour qu'il a pu prononcer à l'époque et pour lesquelles il était demandé. Oui.
Au fond, qu'est-ce qui caractérise Bossuet ?
Oh, c'est difficile à résumer en peu de mots. Je crois qu'il y a un grand zèle des âmes. Essayer d'aller chercher tout le monde. Il va chercher des protestants, il va être l'artisan d'une conversion de Turenne, par exemple, qui était un grand chef militaire. Il va être l'artisan de la conversion de Condé, qui était le cousin de Louis XIV, un grand général, mais qui était le libertin de l'époque. Enfin, il y a ce grand zèle des âmes. C'est un pasteur, c'est un évêque aussi. Alors à l'époque, en plus, être évêque, c'est un peu être comme un préfet, hein, aujourd'hui. Ce qui le guide, c'est d'être un pasteur. Et pour être un pasteur, il s'engage dans toutes les controverses de son temps, mais je crois qu'à la fin de sa vie, parce que les textes sur lesquels je me suis concentrée datent de la fin de sa vie, il se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les textes sacrés de la Bible, pour lui, qui l'ont toujours nourri depuis ses 14 ans, où il a rencontré avec un éblouissement auquel il ne s'attendait peut-être pas lui-même, ces écritures en latin à l'époque, hein, mais qu'il veut donner à sentir en français avec toute la poésie de sa langue.
Qu'est-ce qui vous a ébloui ?
Oh, il y a une majesté, hein, de cette sensibilité frémissante, mais qui est tenue par une grande rigueur. Et il y a cet équilibre, en fait, qui est très grand siècle, hein, qui est très 17e siècle, je crois, dont on a besoin aujourd'hui pour n'être ni dans les excès d'une rigueur, ni dans l'épanchement d'une sensibilité.
Comment a-t-il influencé les politiques à son époque, hein, Bossuet ?
Pas autant qu'il l'aurait voulu, mais il a essayé. Hein, il a essayé il a beaucoup fréquenté Louis XIV. Il a été un petit peu présent auprès de la maîtresse de celui-ci, Louise de la Vallière. Hein, c'est un petit peu romanesque, hein, ce passage-là, qui après avoir donné quatre enfants au roi, voilà, finit par se retirer au couvent des Carmélites, hein, quand même. Hein, et donc c'est Bossuet qui prêche, hein, le sermon lorsqu'elle se retrouve au Carmel. Mais voilà, il est dans les grands défi, il est précepteur du dauphin, donc le fils de Louis XIV, dont il aimerait faire un grand roi. Bon, c'est quelqu'un qui ne règnera jamais, et puis qui est apparemment pas un très bon élève. Mais peut-être que c'était difficile d'avoir Bossuet comme professeur aussi, mais...
Vous auriez voulu l'avoir, vous ?
Je ne sais pas, en tout cas, j'ai passé effectivement du temps dans la silencieuse solitude des bibliothèques en sa compagnie, hein, donc c'est vrai que j'ai eu le temps de m'approprier. J'ai jamais prêché de retraite sur Bossuet, mais voilà, j'ai un peu vécu une retraite pendant ma thèse avec lui, au contact de ses textes. Et donc, c'était aussi un petit peu le fruit de cette expérience dont je voulais essayer de faire profiter les lecteurs, garder ce qui pouvait rester après avoir lu tant de choses.
Est-ce que je peux vous demander le temps de travail aussi pour sélectionner tous ces nombreux textes que l'on peut retrouver dans ce petit ouvrage, car c'est le grand défi aussi, 190 pages seulement, où on retrouve une densité aussi des textes de Bossuet.
Bon, ça fait à peu près 2 ans que j'étais sur le projet, mais c'est vrai que je me suis appuyée un petit peu sur tout ce que j'avais pu retenir dans mes années thèse, dans mes différents travaux plutôt universitaires ou académiques. Et là, il y avait aussi la volonté, en écrivant ça, de comment dire, comme j'avais une approche très académique, érudite pendant ces différents travaux universitaires, de rendre justice à Bossuet aussi en ayant une approche la plus explicitement spirituelle dans ma présentation.
Et vous lui rendez hommage.
Oui, voilà, c'est ce qu'on peut s'appuyer encore aujourd'hui, oui, sur ces textes, bien sûr.
Alors, ce retraite spirituelle avec Bossuet, cherche à vivre la parole de Dieu, est un temps que vous proposez pour les lecteurs, donc un temps aussi cette semaine, dans la série des Clés pour vivre, d'entrer avec vous, et puis Bossuet lui-même, qui se rend présent dans ces différents textes, et puis au fond, une retraite, et pourquoi pas devenir lecteur pendant ces périodes de repos, ces périodes de détente, en prenant la référence de cet ouvrage. Je vous propose de vous retrouver, Agnès Lachaume, dès demain, dans cette même émission, et toujours avec ce livre qui se présente comme un temps de retraite. Donc, méditons avec vous, et surtout avec Bossuet, et ces très beaux textes que vous avez sélectionnés, au fond, pour aller à l'essentiel, se rappeler que nous sommes tous mortels.
Oui, merci beaucoup.
À demain, même lieu, même heure.
À demain.